10. Le camp Ted Zeppo n'est pas aussi gigantesque que le Mac Manoir de Babineau à Sugar Heights, mais pas loin. C'est une vieille bâtisse de plein pied, tout en longueur. Au-delà, les pentes couvertes de neige descendent vers le lac Charles, qui s'est couvert d'une pellicule de glace depuis la dernière visite de Brady. Il se gare devant la maison et la contourne prudemment à pied, les semelles des coûteux mocassins de Babineau glissant sur la neige, pour gagner la façade ouest. Le camp de chasse est situé dans une clairière et il s'y trouve beaucoup plus de neige que sous les arbres. Il a les chevilles gelées. Il regrette de ne pas avoir pensé à emporter des bottes et se répète une fois de plus qu'on ne peut pas penser à tout. Dans le boîtier du compteur électrique, il récupère la clé de la remise qui abrite le groupe électrogène, puis la clé de la maison dans la remise. Le groupe électrogène est un Generac Guardian haut de gamme. Il ne tourne pas en ce moment, mais il se déclenchera sûrement plus tard. Ici, au fin fond des bois, le courant saute presque à chaque tempête. Brady retourne à la voiture chercher l'ordinateur de Babineau. Le camp a la Wi-Fi et l'ordinateur portable est tout ce dont il a besoin pour rester connecté à son projet en cours et en suivre de près l'évolution. Plus le Zapit, évidemment. Bon vieux Zapit Zéro. La maison est obscure et glaciale. Et ses deux premiers gestes en entrant sont ceux, très prosaïques, de tout propriétaire rentrant chez lui après une longue absence. Allumer les lumières et monter le thermostat. La pièce principale est immense et lambrissée de pain, éclairée par un lustre en os de caribou poli, datant de l'époque où il y avait encore des caribous dans ces forêts. La cheminée en pierre est une gueule ouverte, assez grande pour y rôtir un rhinocéros entier. Au plafond, il y a de grosses poutres noircies par des années de fumée. Contre un mur se dresse un buffet en merisier aussi long que la pièce elle-même, où s'alignent une bonne cinquantaine de bouteilles d'alcool. Certaines presque vides, d'autres avec le cachet encore intact. Les sièges sont vieux, dépareillés et affaissés. Profond fauteuil de repos, canapé gigantesque où d'innombrables bimbos se sont fait caramboler au fil des années. En plus de la chasse et de la pêche, la baise extra-conjugale a toujours été une activité très pratiquée ici. La peau étalée devant la cheminée appartenait à un ours abattu par le docteur Elton Marchand, parti maintenant pour la vaste salle d'opération céleste. Les têtes et poissons empaillés sur les murs sont des trophées appartenant à une bonne douzaine d'autres toubibs d'hier et d'aujourd'hui. Il y a un cerf 16 corps, particulièrement remarquable, tiré par Babineau lui-même, quand il était encore Babineau. Hors saison de chasse. Mais on va pas pinailler. Brady dépose l'ordinateur sur un antique bureau à cylindre au fond de la pièce et l'ouvre avant même d'avoir ôté son manteau. Il vérifie d'abord le répéteur de signal et découvre avec ravissement qu'il annonce maintenant trouvé 243. Il pensait avoir compris le pouvoir du piège visuel et il a vu combien l'écran de démo était addictif avant même d'avoir été boosté. Mais là, c'est une réussite qui dépasse ses attentes les plus folles. Largement. Il n'a pas reçu d'autres carillons d'alerte de The End, mais il y va quand même, voir comment ça se passe. Et à nouveau, cela dépasse ses attentes. Plus de 7000 visiteurs à cette heure. 7000! Et le nombre augmente régulièrement sous ses yeux. Il se défait de son manteau et esquisse un petit pas de danse sur la peau d'ours. Ça le fatigue vite. Quand il fera son prochain échange, il faudra qu'il choisisse quelqu'un de 20-30 ans, pas plus. Mais ça le réchauffe agréablement. Il attrape la télécommande de la télé sur le buffet et clique en direction de l'écran plat géant, l'une des rares allégeances du camp de chasse à la vie au XXIe siècle. La parabole satellite capte Dieu sait combien de chaînes et l'image HD est à se pâmer. Mais aujourd'hui, Brady est plus intéressé par la programmation locale. Il appuie sur le bouton source de la télécommande jusqu'à ce qu'il ait vu sur la piste menant du camp au monde extérieur. Il n'attend aucune visite, mais il a 2 ou 3 jours de travail intensif devant lui, les jours les plus importants et les plus productifs de sa vie. Et si quelqu'un s'avise de vouloir l'interrompre, il veut le savoir à l'avance. La vitrine contenant les armes est à quelques pas seulement. Sur le mur lambrissé de planches de pin noueuses, sont alignés fusils et carabines, et les pistolets sont suspendus à des crochets. La pièce maîtresse de la vie de Brady, c'est le FN SCAR 17S à crosse en polymère, capable de tirer 650 coups par minute, et illégalement converti en mode automatique par un proctologue qui est aussi un cinglé des armes. C'est la Rolls-Royce des fusils d'assaut. Brady le descend de son support, avec quelques chargeurs supplémentaires et plusieurs lourdes boîtes de munitions 308 Winchester, et va l'appuyer contre le mur à côté de la cheminée. Il pense allumer le feu. Du bois sec est déjà prêt dans l'âtre, mais il a encore une chose à faire avant. Il va sur le site de la ville pour avoir les dernières nouvelles et fait rapidement défiler l'écran, cherchant d'éventuels suicides. Aucun pour le moment, mais il peut y remédier. « Appelons ça les amuse-gueules » dit-il en souriant, et il allume la console. Il se met à l'aise dans l'un des fauteuils de repos et commence à suivre les poissons roses. Quand il ferme les yeux, il les voit encore, au début en tout cas. Puis il se transforme en point rouge qui se déplace sur un fond noir. Brady en choisit un au hasard et se met au travail. 11. Quand Holly revient avec Freddy, Hodges et Jérôme ont les yeux fixés sur un écran digital qui affiche « Trouvé 244 ».
« Elle va bien ?» glisse doucement Holly à Hodges. « Incroyable, mais vrai. Elle a un trou dans la poitrine qui ressemble à ce que j'ai dit que c'est... »
Freddy a le ton un peu plus assuré maintenant. Elle a les yeux rouges, mais c'est sans doute l'effet de l'herbe qu'elle vient de fumer.
« Il m'a tiré dessus. Elle avait des mini-protections hygiéniques. Je lui en ai fixé une sur le trou avec du sparadrap, » dit Holly. « Il était trop gros pour un simple pansement. » Elle fronce le nez. « Ah, l'enculé m'a tiré dessus !»
C'est comme si Freddy essayait encore de se faire à cette idée. « Et de quel enculé s'agirait-il ? » demande Hodges. « Félix Babineau, peut-être ? » ?»«
Ouais, lui. Enculé de Dr. Z. » Sauf qu'en fait, c'est Brady. Comme l'autre, là. Z-Boy.
Z-Boy ? Répète Jérôme.
C'est qui, ce Z-Boy ?
Un type plus vieux ? Demande Hodges. Plus vieux que Babineau ? Cheveux blancs qui frisottent ? Conduit un vieux clou avec des couches d'apprêt dessus ? Porte peut-être une parka déchirée rafistolée avec du scotch ?
Pour la voiture, je sais pas. Mais je connais sa parka, répond Freddy. C'est lui. C'est mon pote Z-Boy.
Elle s'installe devant son Mac de bureau, où des fractales tournoient sur l'économiseur d'écran, et tire la dernière bouffée de son joint avant de l'écraser dans un cendrier plein de mégots de Marlboro. Elle est encore pâle, mais elle a repris du poil de la bête, et aussi de ce mordant dont Hodges se souvient bien.
Dr. Z est son fidèle acolyte Z-Boy. Sauf que tous les deux, c'est Brady. Des putains de poupées russes, voilà ce que c'est. Madame Linklater ?
Intervient Holly.
« Oh, allez-y. Appelez-moi Freddy. Une nénette qui a vu l'état saté que j'ai à la place des seins a gagné le droit de m'appeler Freddy. »
Holly rougit, mais ne se démonte pas. Quand elle est sur une piste, elle ne se démonte jamais.
« Brady Hartsfield est mort. Il a fait une surdose de médicaments la nuit dernière, ou tôt ce matin.
Ah ?
Elvis a quitté les lieux ?»
Freddy réfléchit à ça et secoue la tête.
« Comme ce serait sympa, si c'était vrai. »
« Et comme ce serait sympa si je pouvais me convaincre qu'elle est folle, » se dit Hodges. Jérôme désigne du doigt l'écran numérique au-dessus de l'ordinateur qui affiche maintenant « Trouvé 247 ».
« Est-ce que ce truc fait de la recherche ou du téléchargement ?»«
Les deux. »
À travers le t-shirt, la main de Freddy presse son bandage de fortune dans un geste automatique qui rappelle à Hodges le sien.
« C'est un répéteur de signal. » Je peux le désactiver ? Du moins, je pense pouvoir le faire, mais il faut que vous me promettiez de me protéger des types qui surveillent l'immeuble. Le site internet, par contre, problème. J'ai l'adresse IP et le mot de passe, mais l'accès m'est refusé.
Hodges a 1000 questions à poser, mais tandis que trouver 247 passe à trouver 248, seulement 2 lui semblent d'une importance capitale. Que recherche-t-il ? Et que télécharge-t-il ?
« Vous devez d'abord me promettre de me protéger. Vous devez m'emmener en sécurité quelque part. Protection des témoins ou un truc comme ça. » Il n'a pas besoin de vous promettre quoi que ce soit, parce que j'ai déjà compris, dit Holly.
Il n'y a rien d'hostile dans le ton de sa voix. Au contraire, il serait plutôt réconfortant.
Cet appareil recherche les apites, Bill. Chaque fois que quelqu'un en allume un, le répéteur le trouve et actualise la démo du fishing hole.
Transforme les poissons roses en poissons chiffres et ajoute les flashs de lumière bleue, ajoute Jérôme. Il regarde Freddy.
C'est bien ça qu'il fait, exact?
Maintenant, c'est vers son front et la bosse violette couverte de sang séché que monte la main de Freddy. Quand ses doigts la touchent, elle grimace et les retire.
Ouais. Sur les 800 apites qu'on m'a livrés ici, 280 étaient défectueux. Soit ils plantaient dès l'allumage, soit ils faisaient crack-boom quand on essayait d'ouvrir un des jeux. Les autres étaient bons. On m'a fait installer un kit sur chacun, sans exception. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Un travail chiant, comme de visser des boulons sur une chaîne d'assemblage.
Ce qui nous en fait 520 en état de marche, dit Hodges.
Doué pour les soustractions, le mec. Offrez-lui un cigare.
Freddy jette un coup d'œil à l'affichage digital.
Et près de la moitié ont déjà été mises à jour.
Elle rigole, mais c'est un rire absolument dénué de gaieté.
Brady est peut-être barge, mais il a bien bossé sur ce coup-là, vous trouvez pas?
Hodges dit. Éteignez-le.
Pas de problème, quand vous m'aurez promis une protection.
Jérôme, qui a personnellement fait l'expérience de la rapidité d'action des apites et des pensées désagréables qu'ils implantent dans le cerveau des gens, ne voit pas l'intérêt de rester planté là pendant que Freddy cherche à marchander avec Bill. Le couteau suisse qu'il avait toujours à la ceinture quand il était sur le chantier en Arizona a retrouvé sa place dans sa poche. Il déplie la plus grande lame, balaye le répéteur de son étagère et tranche les câbles qui le relient au système de Freddy. L'appareil tombe à terre avec un modeste fracas et une alarme commence à striduler dans l'unité centrale placée sous le bureau. Holly se penche, appuie sur quelque chose et l'alarme se tait.
« Il y a des boutons, crétin !» gueule Freddy. « Vous aviez pas besoin de faire ça ?»«
Eh ben, je l'ai fait, » réplique Jérôme. « Un de ces putains de zapites a failli tuer ma sœur. »
Il fait un pas vers elle et Freddy a un mouvement de recul.
« Vous aviez idée de ce que vous foutiez ? La moindre putain d'idée ? Je suis sûr que oui. Vous avez l'air défoncé, mais pas débile. »
Freddy se met à pleurer.
« Je savais pas. Je le jure, je savais pas. Parce que je voulais pas. »
Hodges prend une profonde inspiration qui ranime la douleur.
« Commencez par le commencement, Freddy, et racontez-nous tout. »
« Et en quatrième vitesse, » ajoute Holly.
12. Jimmy Winters avait 9 ans quand il a assisté au concert des Round Here avec sa mère. Dans le public ce soir-là, les garçons étaient peu nombreux. Les Round Here étaient de ces groupes que les pré-ados de son âge méprisaient, en les traitant de trucs de filles. Jamie, lui, aimait les trucs de filles. À 9 ans, il n'avait pas encore acquis la certitude qu'il était gay. Il n'était même pas sûr de savoir ce que c'était. Tout ce qu'il savait, c'était que lorsqu'il voyait Cam Knowles, le chanteur des Round Here, ça lui faisait une drôle de sensation au creux du ventre. Maintenant, il va sur ses 16 ans, et il sait exactement ce qu'il est. Avec certains garçons au lycée, il préfère se faire appeler Jamie sans eux. Son père aussi sait ce qu'il est et il le traite comme une espèce de dégénéré. Lenny Winters, l'homme viril dans toute sa splendeur, est le propriétaire d'une entreprise de construction florissante, mais aujourd'hui, les 4 employés des constructions Winters ne travaillent pas à cause de la tempête annoncée. Lenny s'est installé dans son bureau à la maison, plongé jusqu'au cou dans de la paperasse, et il transpire sur les feuilles de calcul qu'affiche son écran d'ordinateur.
« Papa !»«
Qu'est-ce que tu veux ?» gronde Lenny sans lever les yeux. « Et pourquoi t'es pas au lycée ? Ils ont annulé les cours ?»«
Papa !»
Cette fois, Lenny se retourne pour regarder le garçon qu'il appelle parfois, quand il pense que Jamie ne l'entend pas, le petit pédé de la famille. La première chose qu'il remarque, c'est que son fils porte du rouge à lèvres, du fard à joues et de l'ombre à paupières. La deuxième chose, c'est la robe. Lenny la reconnaît. C'est une de celles de sa femme. Le gamin est trop grand pour cette robe qui lui arrive à mi-cuisse.
« Putain de merde !»
Jamie sourit. Il rayonne.
« C'est comme ça que je veux être enterré. Mais à quoi est-ce que... »
Lenny se lève si vite que son fauteuil se renverse. C'est alors qu'il voit le revolver dans la main du garçon. Jamie a dû le prendre dans la penderie de leur chambre, côté Lenny.
« Regarde ça, papa !»
Toujours souriant, comme s'il s'apprêtait à faire un tour de magie super sympa, il lève le revolver et place le canon contre sa tempe droite. Il a l'index replié sur la détente. Son ongle est soigneusement peint de vernis pailleté.
« Pose ça tout de suite, fiston ! Pose ça !»
Jamie, ou Jamie, ainsi qu'il a signé son bref mot d'adieu, appuie sur la détente. Le revolver est un 357, et la détonation est assourdissante. Du sang et de la cervelle giclent en éventail et vont décorer le chambranle de la porte de couleur vive. Le garçon, portant la robe et le maquillage de sa mère, tombe en avant, le côté gauche de son visage éclaté comme un ballon. Lenny Winters émet une série de hurlements aigus et chevrotants. Il hurle comme une fille.